France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Vous. Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
S'il n'y avait qu'un seul mot pour relier ces deux films, ce serait celui-là, précarité, celle d'une population déclassée en France ou d'une assistante sociale à Bruxelles, et surtout deux films qui ne jugent pas leurs protagonistes. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Une manif tendue de gilets jaunes à Paris, un jeune homme blessé par un tir de LBD, une inspectrice de l'IGPN enquête, c'est dossier 137, le film. Bonjour Dominique Moll.
Bonjour.
Auteur de cette enquête policière, sociale, humaine, et qui touche au fonctionnement même de notre démocratie. Au cœur de votre dispositif, une grande actrice pour incarner cette complexité, Léa Drucker, dossier 137, sur nos écrans mercredi prochain. On ne peut pas croire qu'une femme puisse décider de dépasser le stigmate associé à la prostitution. Vous aussi, c'est même l'enjeu de votre film Kika. Bonjour Alex Poukine.
Bonjour.
Kika, assistante sociale à Bruxelles, mère et jeune veuve fauchée qui va tenter sa chance dans l'industrie du sexe avec là aussi une actrice sacrément subtile, Manon Clavel. Kika est sortie mercredi, en même temps que Les Aigles de la République, Un gang d'Amazon ou Une bonne étoile. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je comprends pas pourquoi ils ont tiré sur mon fils comme ça. En pleine tête. Mon fils, c'est pas un casseur. Au contraire, il a un métier. Il est apprenti électricien. On est venu manifester pour les services publics. À Saint-Dizier, ils ferment tout. Saint-Dizier ou ailleurs, c'est partout pareil.
Pareil que ?
Pareil qu'on s'en fout de nous.
On va mettre tout ça par écrit.
Stéphanie, Léa Drucker, une inspectrice de l'IGPN, la police des polices, à l'écoute de la mère d'un jeune homme blessé par un tir de LBD durant les manifs de Gilets jaunes à Paris en décembre 18. Ce sera ce dossier donc 137, le titre de votre film Dominique Moll, d'un côté les Gilets jaunes, de l'autre la police des polices. C'était déjà pour vous une vraie piste de fiction avec ce moteur essentiel de dramaturgie. Ils enquêtent sur des collègues avec tout le mépris et la détestation que cela génère. Ça c'est déjà un gros argument dramaturgique.
Alors le mot détestation est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, ils sont mal aimés et peut-être aussi détestés par certains. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'ils sont aussi critiqués par certains médias, une partie des citoyens qui leur reprochent d'être jugés partis et de ne pas pouvoir enquêter de façon impartiale. Donc ils sont, de fait, enfin les enquêtrices et les enquêteurs de l'IGPN, dans une position assez inconfortable, et c'est justement ce qui m'intéressait. Enfin, il me semblait que pour un personnage de fiction, c'était un bon point de départ, et de savoir comment est-ce qu'on arrive à bien ou mal faire son travail dans cette situation.
Et c'est un milieu, donc un monde très secret, que vous avez pénétré grâce à une nouvelle directrice qui est magistrate et pas policière. Vous les avez vus au travail, vous avez vu des Stéphanie, des femmes et des hommes mis dans des situations compliquées. Vous les avez regardés, vous avez écrit, comment ça s'est passé?
J'ai eu la chance assez inespérée de pouvoir faire une immersion de quelques jours au sein de l'IGPN, enfin surtout à la délégation parisienne de l'IGPN, où j'ai pu observer des enquêtrices et des enquêteurs dans leur travail, assister aussi à des auditions, mais surtout pouvoir échanger avec elles et avec eux, enfin surtout avec elles, parce que j'étais surtout en lien avec des enquêtrices. Il y a une proportion assez élevée de femmes à l'IGPN, contrairement à la PJ, par exemple. Et c'était absolument essentiel pour le film.
Des enquêteurs qui ont travaillé dans d'autres services et connaissent les difficultés du terrain et doivent se mettre à leur place, au chaud, dans leur bureau.
Je suis major de police et j'avais sous mon autorité les équipages de la BAC 92.
Pouvez-vous préciser quelles étaient vos missions ?
Ouais, on nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents.
Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue.
On nous a dit que la République était en danger, qu'il fallait stopper l'insurrection. On nous a demandé de participer à l'effort de guerre.
C'était les instructions que vous aviez, sauver la République, participer à l'effort de guerre, en ces termes.
Oui.
Le maintien de l'ordre fait partie de vos attributions habituelles ?
Non. Non.
Quelles sont vos missions habituelles ?
Vous ne connaissez pas les missions de la BRI ?
Répondez à ma question, s'il vous plaît.
Mission d'intervention dans le cadre du grand banditisme, prise d'otages et terrorisme.
Lutte contre les violences urbaines, flagrant délit sur la voie publique.
Diriger Léa Drucker là-dedans, parce que dans ses interrogatoires, elle doit garder une apparence de flic, quoi. Il veut dire écouter vraiment cette parole-là, tout en bouillonnant parfois à l'intérieur, Dominique Moll.
Oui, Léa, pendant la préparation, m'avait demandé si c'était possible qu'elle rencontre des enquêtrices de l'IGPN, et donc j'ai organisé une rencontre, donc il y a pu avoir un échange de plusieurs heures, et c'était très intéressant pour elle, parce qu'une des questions qu'elle leur a demandé, c'était, voilà, moi, comédienne, mon outil de travail, c'est les émotions, mais vous, comment vous gérez vos émotions ? Enfin, quand vous êtes face à un policier qui vous agace ou qui vous met en colère, ou face à la mère dont le fils a été blessé, qui est en plein désarroi, vous ressentez peut-être de l'empathie, qu'est-ce que vous en faites ? Les enquêtrices ont dit, on les met sous cloche, parce que d'une part, on ne peut pas les montrer, il faut rester assez poker face, et surtout, il ne faut pas se laisser envahir par ces émotions, parce qu'en tant qu'enquêteur, enfin, que ce soit à l'IGPN ou dans notre service, on enquête à charge et à décharge, et on s'en tient qu'au fait. À un moment donné, le substitut du procureur demande au personnage de Léa Drucker « C'est quoi votre avis personnel sur cette affaire ?» Et elle dit « J'ai pas d'avis personnel, parce qu'il n'y a que les faits qui doivent compter. » Et donc, cette idée de garder les émotions sous cloche était pour nous un fil rouge aussi dans la direction d'acteur, de dire « Voilà, il faut qu'il se passe évidemment beaucoup de choses à l'intérieur, et il faut que le spectateur le perçoive, mais elle a pas le droit de laisser libre cours à ses émotions.
J'ai l'impression que vous êtes un peu comme Stéphanie, comme cinéaste, vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez devoir faire la part des choses, en fait. Raconter et les familles de Gilets jaunes et les policiers, en gardant cet équilibre.
En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner les choses plutôt que d'asséner des vérités.
Oui.
Et d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à des violences policières et de raconter ce processus. Et c'est pour ça que le fait de le faire dans le point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN qui est ni d'un côté ni de l'autre, c'était un point de départ assez idéal pour ça.
L'enquête est hyper rigoureuse, c'est ce que vous montrez, avec un vrai langage administratif qui devient presque un langage poétique, quoi. On fait pas n'importe quoi, on a des collègues qui ont fait ça, on veut savoir la vérité, à travers un nombre de rapports, de mails insensés.
Ça fait partie dans tous les services d'enquête, il y a la lourdeur administrative. Tout doit être consigné dans des PV ou dans des réquisitions quand on veut demander quelque chose. Et donc les enquêtrices et les enquêteurs passent beaucoup, beaucoup de temps à écrire ces rapports. Et c'est vrai que c'est un langage très particulier, un vocabulaire très particulier qui devient, qui est un peu abscon et qui, en même temps, à un moment donné, devient poétique. Et en général, c'est des choses qu'on évacue des fictions parce qu'on se dit, oh là là, c'est rébarbatif, etc. Mais moi, c'est pour moi, je trouvais ça, c'était un défi intéressant de justement montrer que ça en fait partie et le montrer de façon à ce que ça reste passionnant.
Des policiers parfois d'accord avec les gilets jaunes, beaucoup parmi eux partagent même les mêmes origines sociales. Preuve avec ce repas entre eux.
Je suis venu à l'IGPN pour coincer les ripoux, moi. Pas les collègues qu'on envoie au casse-pipe. À chaque nouvelle manif, il y a de nouvelles plaintes, ça n'arrête pas.
Mais c'est vrai qu'en ce moment, on fait plus que ça.
N'empêche que moi, au début, j'étais plutôt d'accord avec les gilets jaunes. Franchement, sur le fond, ils ont raison.
Mais bon, après, ils ont vrillé. Vraiment vrillé. C'est normal que les collègues aient les boules, les balancent en première ligne en exigeant d'eux qui rétablissent l'ordre, soi-disant qu'il faut sauver la République. Mais là, boum, au moindre dérapage, ils sont montrés du doigt.
Le problème aussi, c'est qu'on les infantilise, on leur parle comme à des gamins. Et encore, il n'y a plus personne qui parle à ces gamins comme les chefs parlent à leurs hommes. Ça aussi, ça tape sur les nerfs. Du coup, quand ils sont en mission, ils se défoulent.
Non, moi, l'autre jour, j'ai entendu un commissaire dire en se marrant que ces gars se lâchaient comme dans un jeu vidéo.
T'as vu les images des collègues de la BAC qui tirent au LBD en disant « à voter, à voter ». Ils déconnaient complètement, les mecs. À chaque tir, à voter.
C'est fou, ça. D'ailleurs, les gouvernements a eu tellement peur de cette proximité, parfois, qu'ils ont augmenté les effectifs, notamment avec les gens de la BAC et de la BRI. J'ai une question, Dominique Moll. On est à deux jours après les commémorations du 13 novembre, où on a beaucoup héroïsé ces hommes. Là, c'est l'autre facette de la monnaie.
Oui, c'est ce qui est intéressant. Enfin, c'est vrai que les policiers peuvent tout à fait, ou les gendarmes peuvent tout à fait avoir des comportements héroïques et méritent d'être applaudis pour ça. Et par d'autres moments, il y a des comportements qui sont inacceptables. Et ce qui est important, c'est de savoir nommer les choses. Et c'est ça qui semble compliqué pour tous les gouvernements successifs, pour tous les ministres de l'Intérieur successifs, enfin, par rapport aux violences policières.
Oui,
enfin,
l'actuel dit qu'il ne veut pas parler de violences policières.
Voilà,
Laurent Nunez dit, et moi je ne parle pas de violences policières.
C'est ça, et Macron aussi, il a dit, c'est inacceptable de parler de violences policières dans un état de droit, alors qu'il faut savoir le nommer. Ça ne veut pas dire qu'on jette l'opprobre sur toute une profession, mais ceux qui déconnent, qui n'ont rien à faire à la police, il faut qu'il soit sanctionné et éventuellement même sorti de la police. Et ça ne rend pas service aux policiers qui essayent de bien faire leur travail, et j'en ai rencontré, que ceux qui le font mal, qui dépassent les règles, soient protégés par le politique.
Les images de Sainte-Soline récemment...
Ça fait résonance avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais vu une vidéo de gars de la BAC qui tirait au LBD, c'était effectivement à chaque tir, à voter, à voter, à voter. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient dans une position dans une situation de légitime défense. Et à Sainte-Soline, c'est encore plus choquant.
Ouais. Cette femme, Stéphanie, cette enquêtrice, est hyper rigoureuse. Elle regarde, parce que heureusement, il y a les vidéos qui donnent une certaine vérité, entre guillemets. Il y a un exemple, une référence dans le cinéma, c'est Blow Up, effectivement. Savoir regarder une image et comment, sur une image arrêtée, un détail peut faire basculer une enquête, on n'en dira pas plus, mais c'est ça l'idée aussi de savoir.
Oui, bien sûr. Enfin, une des choses qui m'a frappé pendant mon immersion à l'IGPN, c'est l'importance des images. Oui. C'est-à-dire que les enquêtrices et les enquêteurs passent énormément de temps à déjà essayer de sécuriser des images, que ce soit des caméras de surveillance de la préfecture de police ou des vidéos amateurs qui sont sur les réseaux sociaux et beaucoup d'autres, et à les scruter, à les analyser, à voir si, au fond, on ne voit pas quelque chose qui puisse avoir un lien avec l'affaire sur laquelle ils enquêtent. Et ça, j'ai trouvé ça très, très cinématographique. Et c'est vrai qu'avec Gilles Marchand, avec qui on a écrit le scénario, dès le début, on savait que c'était ces vidéos, ou certaines vidéos, allaient permettre de faire avancer l'enquête. Mais c'est pas pour autre, ce qui était intéressant aussi, c'est pas parce qu'on a une vidéo qui montre quelque chose qu'on a la vérité objective. Parce que selon qui la regarde...
Oui, la preuve, certains policiers regardent une image et l'interprètent autrement.
Tout à fait.
Ça rend fou.
Ça veut dire que ça pose la question, effectivement, de l'objectivité. Et est-ce que ça existe, la vérité objective?
Le statut de la victime vous tient vraiment à cœur, Dominique Moll. On se souvient de vous au César pour la nuit du 12 et votre mot de conclusion.
Je voulais avoir une pensée pour la vraie Clara, c'est-à-dire la vraie victime de l'affaire qui a donné lieu au film. Voilà, elle s'appelait Maude. Merci.
On sent votre émotion sur scène, Dominique Moll. J'ai jamais vu ça, un metteur en scène qui remercie, enfin qui rend hommage à la véritable protagoniste du film. Ça vous tient vraiment à cœur. Parce que pour vous, les victimes de LBD, enfin les victimes des Gilets jaunes, le gouvernement ne s'est pas excusé auprès d'elles.
Oui, et c'est même pas une question d'excuse. C'est la question de la reconnaissance, d'être reconnu comme victime.
Oui.
Et en fait, ils n'ont même pas cette reconnaissance-là, alors que la plupart des manifestants qui ont été grièvement blessés étaient c'était pas des casseurs, c'était des manifestants pacifiques dont la vie s'est transformée en cauchemar, qui emporte des
séquelles
à vie. Le fait qu'à aucun moment le gouvernement puisse dire écoutez, on s'est fait déborder, on a fait un peu n'importe quoi, et il vous est arrivé quelque chose qui n'aurait pas dû vous arriver, ne serait-ce que ça, et ça s'agit même pas d'excuses, mais de reconnaître leur statut de victime, c'est quelque chose, enfin cette incapacité de se remettre en question aussi, ou d'admettre qu'on est allé trop loin dans les ordres qu'on a donnés, dans le suréquipement en armes des forces de l'ordre, etc. Cette incapacité-là, c'est quelque chose qui me rend dingue.
Oui. D'ailleurs, vous remerciez au générique le journaliste David Dufresne qui comptabilisait, lui, toutes les victimes des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous sentez un cinéaste politique, Dominique Moll ?
Alors, je sais pas si je me méfie toujours un peu des étiquettes.
Oui.
C'est un grand mot.
Oui.
Alors, oui, enfin, je pense que ce film-là et peut-être aussi La Nuit du 12 sont politiques d'une certaine façon, mais pas dans le sens d'un militantisme politique, mais dans le sens de essayer de comprendre le fonctionnement, de faire comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement de nos institutions à travers évidemment des histoires humaines.
Ça s'appellera un cinéaste citoyen.
Voilà.
Exactement. Vous avez réussi avec ce film à la fois raconter l'exaspération des policiers, la pression des autorités et en même temps donner une vraie place aux victimes, preuve avec cette dernière scène absolument déchirante et qu'on ne révélera pas bien sûr. Dossier 137 sort mercredi prochain. Et maintenant, on se dirige vers la Belgique.
Bonjour monsieur.
Je suis désolé de vous embêter, j'ai toujours reçu un papier du CPS. Il faut vraiment que vous me disiez, c'est par rapport au comment est-ce qu'on appelle
ça ? Oui, je vois très bien.
Je vais
vous caler entre deux rendez-vous, d'accord ?
Vous
inquiétez pas, je vais m'en occuper.
Vous entendez, ils me couper les aides. Il faut que je passe aujourd'hui.
Vous inquiétez pas.
Je comprends rien à leurs histoires.
J'ai rendez-vous avec madame,
ça change tout le temps, putain.
Bonjour. Je sais, monsieur, écoutez, c'est pas moi qui prends le critère débile, mais vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, d'accord ?
Vous me recevez quand alors ?
Dans 10 minutes, je reçois dans 10 minutes.
Vous allez m'aider, d'accord, madame ?
Bien sûr.
Oh !
C'est l'ouverture de votre film, l'aventure aussi. Kika, Alex Poukine, un homme en détresse, une population en détresse à Bruxelles, où votre héroïne, assistante sociale et mère d'un enfant, tente de réparer ses destins meurtris. Le sien va le devenir, meurtri. Pourtant, tout commence avec une belle histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour interrompue par le deuil de son compagnon et très vite la précarité pour Kika. La peur de la précarité qui, à un moment, a effleuré votre vie aussi.
Tout à fait, oui. Kika, c'est un peu un mélange entre moi et un ami qui est assistant social et dominateur. Et donc, j'ai fait une grande enquête aussi donc, pour faire ce film auprès d'assistantes sociales au départ.
Mais la précarité, vous en aviez peur ?
Oui, parce que j'avais été seule avec ma fille à un moment donné. Et donc j'étais réalisatrice et ça ne suffisait pas pour payer mon loyer, j'avais 4 mois de retard. Et donc je me suis dit à un moment donné, ben...
Vous avez tout vendu déjà ?
J'ai tout vendu.
Sauf votre corps.
Et voilà. Et quand à un moment donné, il m'est resté mon corps, je me suis dit, ben, peut-être que ben, je peux vendre ça. Donc j'ai commencé à me dire, ben, est-ce que je serais capable, à l'époque j'avais 35 ans, de me mettre en legging, de mettre du ricil et puis d'y aller quoi. Et qu'est-ce que je serais capable de vendre comme service sexuel à mon âge, quoi.
Vous avez vraiment pensé ?
Ah oui, j'ai commencé à regarder les sites et à me demander est-ce que je... Puis moi, toute seule, dans une pièce avec un homme, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc je me suis dit, bon, il y a plein de mecs, j'avais vraiment envie de les frapper, donc peut-être que, quitte à me faire payer pour,
avec.
Voilà, exactement,
bah, bien sûr.
Joindre l'utile à l'agréable. Donc je me suis dit, ben ouais, peut-être ça. Et alors j'ai eu la chance ou la malchance, peut-être que je serais devenue une grande dominatrice, je sais pas, mais il y a les financements d'un de mes documentaires qui sont arrivés, donc j'ai pas eu besoin de me lancer dans cette aventure-là.
Mais ça a donné
stigmate,
lieu à leur...
Voilà, parce que quand on est petite, c'est vraiment tous les métiers possibles, mais pas celui-là en fait.
Oui.
Il y a une espèce de, c'est un anti-modèle en fait, travailleuse du sexe. Et donc je pense que j'ai mis beaucoup de mes peurs à l'intérieur de Kika.
Et cet ami dominateur vous a donné l'idée justement d'entrer dans ce monde. J'imagine, ça se sent vraiment dans le film, vous avez fait énormément de recherches et de rencontres.
Ouais. Ce qui m'intéressait, c'est que cet ami dominateur, il a fait un énorme burn-out en tant que travailleur social et du coup, il est devenu exclusivement dominateur. Et puis ensuite, il a fait un énorme burn-out en tant que dominateur, il est redevenu travailleur social et ainsi de suite, jusqu'à devenir assistant parlementaire.
Ah non.
C'est bienvenue en Belgique.
Tu as mélangé deux. Voilà.
Magnifique parcours. Magnifique parcours.
Mais oui, enfin moi ce que je trouvais très très intéressant, c'est qu'en fait la véritable violence, elle est pas dans le BDSM.
Non.
La véritable violence, elle est dans l'institution qui demande, il y a une espèce de double injonction, on demande aux gens de prendre soin des autres, de les aider, aux assistants sociaux, et en même temps, on leur donne jamais les moyens de le faire.
On ne prend pas soin d'eux,
et du coup, on ne prend pas non plus soin des bénéficiaires, enfin, des usagers et des usagères. Et ça, je voulais que ce soit dans le film, je voulais aussi qu'on vous... parce que je l'ai vécu, parce que beaucoup de gens l'ont vécu. Mon premier film, c'est sur mon oncle, c'est mon documentaire, c'est sur mon oncle qui vivait dans la rue et qui est mort. Je veux dire, il suffit de rien pour tomber dans la rue.
Ça va très vite.
Ça va extrêmement vite. Et remonter ensuite, c'est extrêmement dur. Et les assistantes sociales le savent, qu'il suffit vraiment de rien, d'un décès, d'un accident, d'une maladie, pour que ce soit vraiment très, très, très difficile ensuite.
Et c'est en écoutant une femme dans son bureau d'assistante sociale que Kika va se décider, donc, cette femme qui vend ses culottes sales aux clients, et la voici à son premier rendez-vous.
Je peux vous proposer un jeu. C'est, je vous rends le paquet, on recommence à zéro, et vous me traitez de gros dégueulasse, de vrai porc, que je vous répugne. Et je vous donne 50 euros de plus. 100 euros. Ok. Allez-y. Vous êtes un gros dégueulasse. Un gros porc. Mais tutoyez-moi. Soyez cash. T'es un gros dégueulasse, un gros porc. T'aimes ça, acheter des culottes sales. Tu vas faire quoi avec? Tu crois que je sais pas? Tu me dégoûtes, quand je te regarde, j'ai envie de dégueuler. Pourquoi vous me dites ça? Attends, mais c'est vous qui m'avez demandé.
Oui, mais. Argumenter.
Ah. T'es vu, là, avec ton petit polo de plouc et ta gueule de rat? Tu me dégoûtes, t'es minable. T'es bon qu'à lécher mes pompes.
Je peux.
Quoi?
Les lécher.
Bah non, non. Même ça, tu mérites pas. Bon, vas-y, maintenant, tu me files mon fric et tu dégages. Sale merde.
Non mais c'est drôle avec Spookin, hein. Et en même temps c'est un vrai parallèle avec le jeu d'acteur.
Oui, complètement.
Mais complètement, c'est-à-dire que à un moment elle casse le jeu même.
Elle chuchote.
Mais oui.
Mais en fait elle est en train de cette séquence là, je l'adore parce qu'en fait elle est en train de rentrer dans le rôle.
Oui.
Elle est en train d'apprendre le rôle. Et ce que je trouve beau, c'est qu'au fur et à mesure du film, elle se confond avec le rôle.
Oui.
Elle ne sait plus se défusionner de ce qu'elle a appris à faire. C'est-à-dire d'être du côté du contrôle, du côté de la domination.
Et elle casse tout quand elle l'interroge, elle casse le jeu, quoi.
Ouais.
Pour l'homme en face.
Oui, parce qu'elle a énormément d'empathie pour lui. Elle a peur qu'il pense qu'elle pense vraiment ce qu'elle est en train de dire. Elle veut rester dans le jeu, elle veut être sûre que ça lui fasse pas de mal.
Mais ces hommes, ils connaissent le jeu. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Vous avez dû enquêter là-dessus, leur poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui sait très bien que la femme en face de lui qu'il va payer joue la comédie?
On joue tous la comédie, tout le temps. Donc oui, enfin,
échanger
ou pas, on ne sait pas ce que les gens font dans la vraie vie. Hein. Je peux vous dire, j'ai fait une grande enquête. Les gens que j'ai rencontrés, vous les voyez dans le bus, vous vous dites, hein, ils sont extrêmement ennuyeux. Des gens 65 ans qui ressemblent à des profs d'histoire géo. Puis vous, quand vous les rencontrez, ils se promènent à poil en laisse. On ne sait pas ce que les gens font.
Hors du cours d'histoire géo.
Voilà.
La question que je posais, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, puisqu'ils savent très bien que c'est une fiction qu'ils sont en train d'inventer et de payer. Vous voyez?
Oui, mais je pense que notre cerveau ne fait pas. J'ai fait un film juste avant là-dessus, justement. Ouais. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on joue.
Le réel et la fiction.
Le réel et la fiction, notre cerveau ne fait pas la différence. C'est pour ça que c'est dangereux aussi d'être comédien. Et il faut ensuite réussir à revenir et à ne pas se confondre avec ce qu'on joue, quoi. Donc, moi, je pense que c'est assez beau que le jeu répare quelque chose de la réalité.
Oui.
Cette espèce d'inversement des normes de genre, moi, je trouve que c'est hyper beau dans une société extrêmement patriarcale. Que des hommes... joue à cette soumission. Moi, je pense que ça rééquilibre un peu...
Quoi ? La souffrance ?
La souffrance, la domination, des injonctions à être à la virilité qui font du mal à tout le monde, et aux hommes et aux femmes.
Votre actrice, parce que vous n'avez pas pris une vraie dominatrice, hein, cette actrice blonde qui est absolument géniale, elles sont très précautionneuses, elles lui racontent... D'ailleurs, on assiste à la fin d'une séance, c'est beau, quoi, comment elle s'occupe de cet homme. Après le jeu, il y a...
Aftercare.
Aftercare.
Aftercare, c'est-à-dire de soigner les gens, de revenir à la réalité, de dire, voilà, c'est un jeu... Et je prends soin de toi. De toute façon, la domination, en vrai, les gens... Enfin, on en a une représentation très stéréotypée, notamment à cause du cinéma. Mais la domination, ce n'est que du soin. Mmh.
Et elles entrent dans des zones très complexes du cerveau de ces hommes-là. Mais c'est des psys, ces femmes aussi, d'une certaine façon.
Complètement. Des psys, des assistantes sociales. D'ailleurs, il y en a une qui le dit dans le film. Elle dit, travailleuse du sexe, c'est comme assistante sociale avec du sperme en plus. Et d'ailleurs... Voilà. Enfin, elle le dit toute. Très souvent, en fait, l'acte dure très très peu de temps. Là, je parle pour les travailleuses du sexe, entre guillemets, classiques.
Ouais.
Ce que les gens souvent viennent chercher, c'est d'essayer d'être moins seuls. Donc, ils parlent.
L'idée, c'était pas de montrer des scènes incroyables, parce que vous avez dû en entendre des histoires, quand même.
C'était dur de faire ce film, parce que j'ai entendu énormément donc, de dominatrices pour faire ce film, et j'ai fait moi-même des cours de BDSM, des ateliers de BDSM.
Bondage, discipline, sadomasochisme.
Exactement. Il y avait tellement d'histoires, c'était tellement riche, tout ce qu'elles me racontaient, on avait envie de faire presque un catalogue. Mais en fait, le film n'est pas un film sur le BDSM, pour commencer.
Non, surtout. Ouais.
Et puis, il fallait aussi que ça corresponde à la trajectoire de Kika. Donc j'ai dû énormément choisir dans ce que j'avais, qui était incroyable. Et en effet, le film montre bien que ces femmes-là, elles aident certains hommes à essayer, en dehors de l'institution, de se guérir. Parce que parfois, l'institution est tellement défaillante. Dans le film, il y a quelqu'un qui rejoue une séquence de sa vie qui est extrêmement, extrêmement douloureuse. Mmh. Et je pense que cet homme y arrive, justement, parce que l'institution est complètement... ne sait pas guérir ce genre de choses. Ne s'y intéresse pas suffisamment, en tout cas.
Ce qui est intéressant, c'est pas un détail, en Belgique, le travail du sexe est décriminalisé.
Tout à fait. J'aurais pas pu faire ce film en France.
C'est ça, c'est important de le dire. Et les hôtels, vous les avez vus, vous dites qu'ils sont près des institutions européennes.
Ah mon Dieu, je vais recevoir plein de messages.
Pardon.
Non, mais c'est vrai, autour du Parlement européen,
oui.
Il y en a énormément. Et
il y a
donc,
une clientèle.
Je peux vous dire qu'entre le matin avant d'aller travailler, entre midi et deux, et à la sortie des bureaux, ça se bouscule. Hein. Et puis vous voyez des gens qui entrent vraiment... Vous ne pourriez pas vous imaginer que ces gens-là fréquentent aussi assidûment les hôtels de discrétion. Donc oui, nous on avait l'argent juste pour louer un des étages de cet hôtel de discrétion, mais toute la journée il était en activité. Donc d'ailleurs, il y a un moment donné dans le film où vous voyez un client qui rentre. Donc on a continué à jouer, il est rentré, ça nous a coûté une pêche en VFX parce qu'on a dû le flouter, pour pas que sa femme ou son mari sache qu'entre midi et deux, il est là tous les jours.
Ouais.
Mais oui.
Ah oui. Kika donc va commencer effectivement par faire semblant et finalement se prendre au jeu et même discuter avec un client comme avec cet homme qui est vétérinaire. C'est une très jolie scène.
Ça, vous êtes vétérinaire ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est ma petite poule de poil, Lucky. Elle aurait dû mourir, mais j'ai fait l'opération. Elle reste au cabinet et on la surveille tous à tour de rôle. Elle avait une tumeur au cerveau et... Elle aurait dû être euthanasiée, parce que les propriétaires ne voulaient pas dépenser l'argent pour la soigner. Donc on l'a adoptée au cabinet, c'est devenu notre mascotte.
Elle est jolie.
Ah, merci. Là, par exemple, c'est pas très joli, c'est un chien qui a été brûlé avec un sèche-cheveux. Ça, les gens n'assument pas ou n'ont pas conscience des faits, en fait. Et souvent, vous le gardez pour vous, hein. Mais il y a certains propriétaires d'animaux. Oh, j'ai un kilomètre d'histoire à vous raconter si vous voulez la prochaine fois.
Là, Kika redevient assistante sociale.
Ouais, complètement. Le naturel revient au galop.
La maman ou la putain, alors ?
À un moment donné, je me suis dit que ce serait un bon titre de film. Dommage que ça ait été pris.
Oui. Non,
ça,
avec le « ou ».
Ben moi, je préfère la maman et la putain. Ouais. Et la maman ou la putain. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à financer le film. C'est que je pense que souvent, les gens pensent que putain, je sais pas, on est putain, qu'on ne le devient pas. Donc souvent, on me disait, non mais c'est pas crédible en fait. On peut pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors que moi, j'ai fait quand même une grande enquête et que par ailleurs, on a fait un casting où beaucoup de comédiennes nous ont dit qu'elles étaient par ailleurs travailleuses du sexe parce que c'est un métier extrêmement précaire. Et que quand on a fait même la petite jeune femme qui vend ses culottes, je peux vous dire que le nombre de comédiennes qui sont venues et qui nous ont avoué qu'elles vendaient leurs petites culottes parce qu'elles faisaient des impros tellement incroyables, on s'est dit non, c'est pas possible. Et oui, enfin, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui deviennent travailleuses du sexe ou au moins qui vendent leurs culottes. Parce que c'est une solution facile et
dans
très
des vies parallèles, donc avec,
oui,
des,
avec
parallèles.
Des vies parallèles.
D'où l'ambivalence, la maman et la putain.
Exactement.
Et pourquoi pas un doc ?
Alors pourquoi pas un doc ?
Déjà,
je rêve un jour d'être riche et célèbre, donc c'est pas par le doc que ça va arriver. Non, c'est pas vrai, ni par la fiction. non, mais c'est juste que Kika, comme je vous l'ai dit, c'est un mélange entre moi, cette amie, et puis aussi plein d'histoires qu'on m'a racontées. Et donc, comme c'est une mosaïque, il fallait que ça soit une fiction. Et puis aussi, parce que c'est pas un film sur le BDSM, il y a des docs superbes sur le BDSM qui ont déjà été faits. Moi, c'était un peu plus que ça, c'était le portrait d'une femme que je voulais faire.
Oui. Et donc, vous avez appris quoi en passant cette fiction ? C'était important pour vous, justement, de se dire que ça serait peut-être presque plus réel que n'importe quel doc que vous auriez pu faire.
Exactement. En tant que dominatrice... Oula. Oh là là. J'espère que ma mère n'écoute pas. Non, je...
On la refait.
Merci.
On n'est pas en direct,
ça sera
en
coupé au montage, bien sûr, vous pensez bien.
En tant que documentariste... Oh là, c'est vrai que c'est proche en plus. En tant que documentariste, c'est vrai que moi, j'avais une espèce de déférence comme ça pour le réel et je pensais qu'il n'y avait rien de mieux que la réalité pour raconter, pour être crédible en fait. Mmh. Et on a casté énormément de dominatrices, de travailleuses du sexe. Il y a une partie des personnes du film qui sont travailleuses du sexe et qui d'ailleurs parfois ne jouent pas leur propre rôle. Mais en fait, les comédiennes sont parfois plus crédibles que des personnes. Et je voudrais juste quand même remercier la semaine de la critique parce que franchement, sans eux, le film ne serait nulle part. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur.
Et le film est dans plein de salles. Il s'appelle Kika. Il est sorti mercredi avec Manon Clavel, cette extraordinaire comédienne, tout comme Léa Drucker dans Dossier 137 de Dominique Moll. Vous restez tous les deux avec nous. On se retrouve après Kendrick Lamar.
What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Aye. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Pickable, I just put them bookers in my chain. Pickable, 80 pointers like a Kobe game. Pickable, 7.62s, I'll make them plank. Pickable, popping out, you better not smell my name. Pickable, put two foreigns on a 405. Pickable, catchy pepper, here from doing pasta. Pickable, why you acting tough on IG Live? Pickable, you know my little niggas off they rocker. Pickable,
surprise bitch, it's that nigga chicken cheese.
Pickable,
let me FaceTime my op, bitch, I'm up the street.
Pickable,
yes, AZ, I'm putting something to sleep.
Pickable,
he on the ground, I praise God and start stumping feet.
Pickable,
I put 10 on his face, bitch, my shooter playing.
Pickable,
I hit it from the back, I told her move her hands.
Pickable,
then slide my thumb in where her at.
Pickable,
on your top, I'm with that bitch, don't look back.
What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. What they talking about, they ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none.
Hey, that's my bitch. Hey, that's my bitch. Hey, with all that fake shit. Hey, ain't the one to play with.
Hey.
Pull off in a lamb, double pocket all that Tams. Mister, get off on your mans. If he hand you disrespect, you better follow up with hands. Losses to the neck, but now I'm trophied up, I'm saying like,
bing, bop, boom, 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 bop, bam.
The type of shit I'm on, you wouldn't understand. The type of skits I'm on, you wouldn't understand. Big dog business, I would not hold your hand.
Broke bitch business, I cannot be your man. Never got his ass whooped until he opened up that can. Damn, alley hoop me bands, I'm a slam. Jam freak bitch, I like my Mac touching yams. Petty ops shit around me, I'ma tell you turn it off. Heard what happened to your mans, not sorry for your loss. Should've prayed before them shooters came and nailed him to the cross. I let your boy get a pass, bitch, you lucky you saw.
For real.
What they talking about?
They talking about nothing.
What they talking about?
They talking about nothing.
Huh? They ain't talking about nothing. Pickable.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer, Laurent, avec les aigles de la République. Bien du bon. Cinéaste suédo-égyptien Tariq Saleh. Georges, famille l'acteur le plus adulé d'Égypte, est contraint par les autorités du pays d'incarner le président Sissi dans un film à la gloire du leader. Il se retrouve ainsi plongé dans le cercle étroit du pouvoir et il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Une vision cynique et un thriller tendu sur le pouvoir dictatorial en Égypte et cette relation complexe avec l'artiste. C'est l'histoire officielle très proche des questionnements contemporains, Laurent.
Oui, alors c'est le troisième volet d'une trilogie dont la seule unité, c'est l'acteur principal, Fares Fares, qui doit à chaque nouveau film se couler dans des nouveaux habits, ici dans ceux d'un acteur star, effectivement, après avoir été un policier corrompu, puis un agent des services secrets. Le héros du film renvoie manifestement effectivement à une solide mythologie hollywoodienne du film noir, entre polar et description politique et sociale, on va dire, et donc on passe ici progressivement d'une fable aux assez gros sabots à un thriller qui fonctionne plutôt bien, même si moi, en tous les cas, je l'ai trouvé à force un peu trop surécrit. Et il y a une chose certaine, c'est quand même que c'est, en termes ne serait-ce que politique, peut-être le volet le plus faible de la trilogie.
Le gang des Amazones de Mélissa Drijard. Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d'enfance, ont braqué sept banques dans la région d'Avignon. La presse les a surnommées le gang des Amazones. Ce film est leur histoire, donc histoire vraie. La réalisatrice n'héroïse pas ses protagonistes tout en les rendant humaine, Laurent.
Oui, alors après un doc de Solveig Anspach et un épisode d'Affaires Sensibles sur Inter, évidemment, voici que le cinéma s'empare de ce que la presse, jamais à l'abri d'un racolage, avait appelé le gang des Amazones, soit un groupe effectivement de braqueuses de banque armées, mais avec des armes non chargées, c'est quand même important de le dire, ça fait une sacrée différence. On est loin effectivement de la complaisance d'un certain cinéma français pour le genre concerné, du gangstérisme, de la délinquance, comme on est très loin aussi d'ailleurs d'une approche qui serait trop documentaire, et ben reste un film au casting impeccable qui assume le film de genre tout en explorant des facettes sociales et intimes. C'est assez réussi, il faut le dire.
Six jours ce printemps-là de Joachim Lafosse. Malgré les difficultés, Sana tente d'offrir à ses jumeaux des vacances de printemps. Comme son projet tombe à l'eau, elle décide avec eux de séjourner sur la Côte d'Azur dans la villa luxueuse de son ex-belle-famille, en cachette, six jours de soleil. Lafosse a puisé son inspiration dans les souvenirs d'enfance, chez ses grands-parents paternels cachés avec son frère jumeau, un film solaire pour raconter une violence sociale.
Oui, donc c'est donc le nouveau film de ce cinéaste belge qui jusqu'à présent nous avait plutôt habitué à des récits âpres, rugueux, souvent plein de bruit, de fureur et de sentiments exacerbés. Il revient ici en mode plus mineur, je vous parle notamment d'une forme plus modeste, mais le propos social reste fort et il est porté d'abord par un personnage principal féminin, et portée par l'actrice Eye Haidara, qui trouve ici, à mes yeux en tous les cas, son meilleur et son plus grand rôle. Le film évoque avec subtilité la réalité quotidienne et têtue du déclassement social. Lafosse raconte tout cela à bas bruit, d'accord, mais avec, sans y toucher, un côté absolument percutant.
On vous croit, un premier film signé Charlotte de Villers et Arnaud Dufay. Aujourd'hui, Alice se retrouve devant un juge aux affaires familiales. Il n'a pas droit à l'erreur, elle doit défendre ses enfants contre un père abusif et dont la garde est remise en cause. Séance de confrontation avec l'ex-mari et père, incarné par Laurent Capelluto, tension extrême et notamment cette scène au cœur du film, l'audition tournée en une prise continue de 55 minutes avec de vrais avocats et trois caméras, dont l'une sur le visage de cette mère angoissée et qui tente de contenir toute sa rage, et incarnée par une incroyable actrice, Myriam Akhediou.
Oui, c'est un très beau et très efficace parti pris d'axer effectivement la quasi-intégralité du film sur cette audience dans le bureau d'une juge, avec effectivement ces trois caméras en permanence qui permettent de passer très régulièrement, voire tout le temps, du locuteur à celui ou celle qui l'écoute. Et ça, c'est un processus et un procédé qui est très très intéressant, qui démarque des films de procès auxquels on a l'habitude. Le résultat cinématographique, à mes yeux en tous les cas, est absolument saisissant, sans effet. On a l'impression d'être embarqué et au bout du compte, la force revient toujours aux enfants. C'est le message du film et c'est un message essentiel.
La Bonne Étoile, drôle de film de Pascal Elbédo, drôle de pitch, surtout France 1940. Jean Chevalin, c'est Benoît Poulvord et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de déserter. Convaincu que certains s'en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée, se faire passer pour juif afin de bénéficier de l'aide des passeurs pour accéder à la zone libre, quiproquo rocambolesque et racisme ordinaire dans la France occupée.
Oui, le titre, La Bonne Étoile, est déjà un mauvais jeu de mots et donne le ton du film qui les multiplie ad nauseam. Autre exemple, je cite, « Il n'est pas juif depuis 5 minutes et déjà tu veux l'exterminer ». Fin de citation. C'est au-delà du mauvais goût. On voit bien qu'Elbé voudrait renouer avec les comédies, par exemple, de Gérard Oury, mais elles ont, elles aussi, d'ailleurs, peut-être vieilli. Il ne fait que créer le malaise en multipliant les anachronismes gênants aussi. On est surtout peut-être extrêmement triste de retrouver Poulvord dans cette mauvaise galère. Il vaut tellement mieux que ça.
The Great Departure de Pierre Filmon à Delhi. Le hasard réuni Marcite, une femme au foyer qui fuit un mari violent, et Marc, un influenceur australien, deux âmes perdues qui ont fui la réalité de leur vie.
Oui, il n'y a pas dans ce récit de Pierre Filmon l'ombre d'une facilité exotique ou anecdotique qui montrerait Delhi sous des jours comme ça un peu, oui, exotique, dans un quasi, et c'est un quasi autoportrait à la tonalité très féministe, puisque l'actrice principale, l'indienne Sonal Sehgal, est à la fois la scénariste et la productrice du film. C'est dire son implication auprès de Pierre Filmon. Le résultat est un portrait au plus près des réalités sociales et culturelles de l'Inde d'aujourd'hui, et parallèlement le cheminement de ces deux personnalités qui se cherchent dans le dédale des métropoles indiennes. C'est assez beau.
The Great Departure, ça s'appelle. Devant, contre-champ de la rétention, par Annie Credofist, un documentaire. Pauline, Nora, Christina attendent pendant des heures, assis sous une cabane en bois perdue au fond du bois de Vincennes, devant le centre de rétention administrative de Paris. Toutes sont venues voir leurs proches enfermés. Ces femmes se racontent, échangent entre elles, partagent avec les nouveaux visiteurs leur expérience, leur révolte, leurs rêves, avec notamment, à travers ces histoires, Laurent, le traitement des étrangers en situation irrégulière.
Oui, petit rappel des faits, un centre de rétention administrative, CRA pour notre administration qui adore ce genre de sigle, c'est un lieu d'enfermement pour étrangers sans titre de séjour valide. Ce ne sont pas des prisons, donc dans l'esprit au moins de l'administration, elles ne sont donc pas gérées par l'administration pénitentiaire, mais par des policiers, ce qui change évidemment ici beaucoup de choses. Et du coup, Annie Credolfi, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour retourner ce documentaire, et elle finit dans la cabane dans laquelle les visiteurs attendent. C'est un point de vue évidemment extrêmement intéressant. Elle n'entrera pas dans le centre, et du coup tout est vu à travers celles et ceux qui viennent voir ce qu'on appelle les retenues. C'est une espèce de magnifique hors-champ permanent qu'elle nous donne à voir, et c'est évidemment bigrement intéressant de se rappeler de temps en temps ces réalités quotidienne.
Et puis l'incroyable Femme des Neiges, on a reçu la semaine dernière cette incroyable actrice Blanche Gardin, c'est un film de Sébastien Bette-Bédé. Elle est exploratrice et voit sa vie partir à la dérive, et ça finit dans une grande et très belle émotion.
Elle franchit un cap, Blanche Gardin, avec ce film dans sa carrière, c'est une évidence.
Deux festivals, Laurent.
Eh bien, vous allez à Pessac si vous aimez l'histoire au cinéma, c'est la 36e édition, du Festival du film d'histoire de Pessac, en Gironde, du 18 au 23 novembre. Le thème, magnifique, secrets et mensonges. 80 films, s'il vous plaît, 30 en avant-première, oui. 30 rencontres, aussi beaucoup de scolaires présents et actifs durant ce beau, très beau, très beau festival. Et puis, il n'y a pas que le Festival de Cannes en mai à Cannes. Il y a aussi, maintenant, les 38e rencontres cinématographiques de Cannes, RCC, du 17 au 23 novembre. Là, il y a 8 films en compétition, 27 avant-premières, des hommages à Redford et à Claudia Cardinal, La Condition de Jérôme Bonnel en ouverture et puis des ateliers d'éducation à l'image.
Et maintenant, on a un peu plus d'une minute pour deux cadeaux, Laurent.
Allez, pour vous, Alex Poutine, un léger classique du cinéma français. Ça s'appelle Le Quai des Brumes de Marcel Carné, hein, sur un scénario de Jacques Prévert, Gabin, plus Morvan, mais avec...
Morgan
aussi, Morgan, qu'est-ce que j'ai dit? Morvan, c'est... Allez, deuxième lapsus de l'émission, on y va. On essaye d'en faire un
celui-là est moins érotique.
Beaucoup moins intéressant, évidemment. Avec cette phrase de Robert Le Vigan, qui joue un peintre et qui dit « Je peins les choses qui sont derrière les choses », ça c'est la réplique la plus magnifique.
Ouais.
C'est un DVD Blu-ray chez Studio Canal, version restaurée 4K, magnifique, magnifique image, évidemment pour ce réalisme poétique, cher au cinéma français de cette époque-là. Et puis pour vous, Dominique Moll, tout autre chose, un Wim Wenders de l'époque américaine, The End of Violence, chez Carlotta, c'est un propos très très ambitieux sur la violence moderne, avec un casting XXL et des très beaux bonus, voilà le troisième bonus explicatif.
Merci beaucoup.
Merci Dominique Moll et votre fantastique film Dossier 137 qui était à Cannes et qui est enfin sur notre affiche dès mercredi prochain avec Léa Drucker. Et merci Alex Poutine pour votre film qui s'appelle Kika et qui est en salle depuis mercredi. Merci aussi.
Merci à vous.
À notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation et Olivier Rioux à la programmation musicale. Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.